Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de 9h à midi, avec Christophe Cessieux, Marie Martineau, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau et un homme qui adore les grandes gueules du sport. Il n'aime pas se lever tôt, donc c'est pour ça qu'il ne fait plus l'émission. Et puis en plus, il est lassé. Maintenant, c'est Stephen Brun. Salut Stephen.
Bonjour Jean-Christophe, salut les GG, salut tout le monde, ça va?
Bah
oui, très bien. On va parler de Stephen Brun dans quelques instants, c'est à partir de 13h.
Vous avez fait deux belles premières heures ou pas?
Bah évidemment.
Exceptionnel.
Évidemment.
Qui le MVP pour l'instant?
Alors, je pensais pas que Julien allait balancer comme ça aujourd'hui. Tu vois, je pensais pas.
J'ai balancé sur quoi?
Oh, sur l'OM. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit des choses horribles. Non, pas du tout.
Sur l'émission de 13h à 15h, j'ai balancé, non?
Oui.
Ouais.
Et on reparlera.
Tu sais, sur la grosse, j'ai vu un cahier avec des notes de Julien Beneteau. Je crois que toute sa vie, il a jamais écrit autant que pour cette émission-là.
Quelle réputation.
C'est bien. Il s'attaque directement à Julien Beneteau. Peut-être sur notre prochain débat. Tu vas nous parler évidemment du programme de Stephen Brun. Ce sera de 13h à 15h. Mais on t'a fait venir parce que...
Ah non, c'est pas une grande gueule, c'est plus une grande gueule. Hein.
Mais, bah si, parce qu'on l'a fait venir aussi, parce qu'on va parler
parce
de la
Lever Cup. Parce que j'ai joué à la Lever Cup deux fois, et donc
la Lever Cup dans inside. Quelques instants.
Ah, donc lui, il vient parler de la... Et nous, on vient parler de son All-Star Game pourri de la LNB.
Et ben, la prochaine fois, quand on parlera du... Enfin, je sais pas si on fera un débat.
Ah, merci.
Mais si on en fait un, tu viendras évidemment en guest star pour évidemment nous donner tes lumières sur l'All-Star Game de basket.
Dis le mec qui me demande chaque année des places pour la Ligue pour y aller.
Ah, quel mytho.
Allez, 11h45, vous le savez, c'est votre moment, les auditeurs. Vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Vous voulez directement interpeller une GG sur l'émission de ce matin. Vous composez le 32-16. À tout à l'heure, c'est à 11h45. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, ils vont devoir débattre. D'après vous, c'est quoi le débat caché du jour?
Moi, j'ai une bonne idée.
Ah, Marie, hier, tu l'as trouvé. Hein.
Yes, hier, j'ai trouvé. Mais là, je pense que j'ai aussi trouvé. On va parler d'Arissa Atrou, la jeune Australienne de 14 ans qui a gagné les XM au skateboard cette nuit, bien sûr, dans la catégorie du parc et qui a déjà fait ça aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui fait suite à la victoire d'une autre jeune Australienne de 14 ans qui s'appelle Chloé Covell et qui a gagné en street. Parlons-en.
Faites la terre, on va la mettre dans l'arbre comme un jour en street.
Je vous dis pas la tronche d'Eric Salio, c'est n'importe quoi. Oui. Il me regarde,
dodine
de la tête.
Je suis encore passé à côté de cette information, évidemment.
Tu sais ce que c'est le skateboard, Eric, ou c'est comment?
Bien sûr.
Eric, j'ai pas encore présenté les copains. Respectez un peu,
Et Marie, tu savais que John Textor avait été skateur quand il était jeune?
On s'égare, Jean-Christophe.
Totalement. Julien Bennett, c'est quoi le débat caché?
Ah, je sais pas, tu nous as pas mis du Mbappé qui a remarqué encore.
Ah, voilà, notre Mbappé du week-end.
Je suis pas passé à côté de l'information.
J'en ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Mais non, mais je ne sais pas, je cherche.
Moi, ça m'impressionne que tu aies trouvé hier, j'ai pas fait gaffe.
Ouais.
Trouver des bacs cachés, pour moi, c'est un truc, c'est bon, le général. Hein. C'est comme un titre d'influence.
Ouais, même la contrat, ça a été le contrat à vie.
Chris, c'est quoi le débat caché?
Je n'ai aucune idée. De toute façon, je trouve jamais.
Si je peux me permettre, parce que tu m'as présenté, donc je peux parler ou pas?
Oui,
tu peux. Alors Sarah dit qu'elle a pas d'idée, mais tout à l'heure, le couloir, elle me dit bah moi, je pense que le débat caché, c'est est-ce que Benoît Paire peut retrouver le top 20.
Il continue.
Hier, sachez qu'on a eu une proposition de débat caché magnifique de la part de Christophe Cessieux. Il voulait parler de Marc Lavoine et d'Adriana Carambeau. Rien à voir avec le sport, évidemment. C'est un très bon débat.
T'en as pas voulu, donc aujourd'hui, je te fais pas de proposition.
Allez, un proverbe lituanien pour débuter cette nouvelle heure. L'or brille, même dans la boue.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
The next chapter of the Lever Cup starts right now.
We are here as a team and we have one goal and that's to win the Lever Cup.
Please welcome Team Europe captain Bjorn Borg.
Rest of the world it's a tough team, but I think we have a good chance.
We have a great team and everyone knows what to do and the most important stage to win matches.
You know, to contribute to the team is going to be clearly the ultimate goal. Playing some good tennis. 1, 2, 3,
on dit, ça compte pas pour du beurre. 1, 2, 3.
Il y a 7 ans, qui aurait pu imaginer qu'un tournoi d'exhibition ferait plus parler que la mythique Coupe Davis? 7 ans plus tard, le constat est là.
La faute à qui?
Oui, et puis ça, c'est en train de penser à rien.
Attendez, pardonnez-moi. Est-ce que je peux faire un lancement tranquillement? Sans que vous essayiez d'intervenir.
On est quand même sur une classe très nombreuse.
On est quand même sur une classe très dissipée aussi.
Oui.
Donc, Il y a 7 ans, mon cher Julien, qui aurait pu imaginer qu'un tournoi d'exhibition ferait plus parler que la mythique Coupe Davis 7 ans plus tard? Eh bien oui, le constat est là. Le week-end dernier, les phases de groupe de la Coupe Davis sont passées presque inaperçues, en tout cas médiatiquement, avec seulement 2 membres du top 10 présents. Et depuis vendredi à Berlin, les étoiles du tennis mondial sont là pour la Lever Cup, ce tournoi imaginé par Roger Federer en 2017, opposant l'Europe au reste du monde. Un tournoi qui a même réussi le tour de force, il y a quelques temps, de s'intégrer et de s'inviter dans le calendrier ATP. Les spectateurs aiment, les joueurs aiment, malgré un enjeu très relatif. Pour l'instant, la musique qui fout les jetons. Et cette question, sans nuance, la Lever Cup, compétition en or ou compétition en bois? Christophe Cessieux.
En bois massif avec des beaux diamants.
Sans nuance, on a dit.
Julien Beneteau.
Ah, si c'est sans nuance, pour l'instant c'est en bois, mais je vais m'expliquer.
Pour l'instant c'est en bois, ok. Marie Martineau.
Ouais, en bois.
En bois. Sarah Pitkowski.
Ben moi j'y vois de l'or, un bel éclat, là où on en est aujourd'hui.
Stephen Brun.
En or.
En or. C'est pour ça aussi qu'on l'a invité, ouais. Parce que je sais qu'il va défendre coûte que coûte la Lever Cup. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Bonjour Eric.
Je suis le seul à avoir assisté à une épreuve, donc je suis légitime pour en parler.
Alors toi, c'est en bois ou en or?
Laisse-moi développer.
Alors, il faut prendre position là, Salio.
Moi, je suis l'introduceur.
Merci beaucoup Eric. La Lever Cup veut encore rêver plus grand et pourquoi pas devenir un rendez-vous fort de la saison, Eric.
Oui, alors n'oublions pas que cette épreuve est le bébé de Roger Federer et de son agent Tony Gozic. Le Suisse était de la première à Prague en 2017, aujourd'hui retraité. Il s'investit et croyez-moi, il vend très bien le produit.
Donc, en fait, on est assis ici dans le stade, dans la Uber Arena à Berlin. C'est très beau, c'est très similaire à la O2 Arena de Londres où j'ai pris ma retraite. Alors, il y a beaucoup de flashbacks pour moi et c'est fabuleux que c'est de nouveau la semaine de Lever Cup. Je suis excité à voir comment ça se présente pour le week-end surtout et pour les fans et les joueurs. Mais je pense que pour moi, comme fan de tennis, c'est toujours un spectacle pour moi de voir les joueurs jouer, surtout à ce niveau-là, voilà, dans un stade aussi beau que celui-là.
Oui. Pour connaître que l'habillage de l'épreuve est travaillé jusque dans les moindres détails, il y a les bleus contre les rouges, le court est noir, c'est magnifique, le design de la chaise d'arbitre épouse celui du trophée, les conversations banc-joueurs sont à l'antenne, il y a des inside provenant des vestiaires, et puis il y a deux capitaines légendaires, Borg et McEnroe. Le téléspectateur se régale. C'est un produit haut de gamme qui dépoussière clairement les rencontres du circuit. Les joueurs, eux, se disent ravis d'être là. Bon, il y a le chèque, bien sûr, mais aussi le fait de sortir d'une certaine routine. Écoutez, Daniil Medvedev interrogé sur les similitudes avec la Coupe Davis.
Tu joues pour un continent, donc on est tous très compétitifs, on veut gagner, mais c'est complètement différent. Pour le coup, parce que c'est pas pour ton pays, on a 6 joueurs presque top 10 ou 6 joueurs top 20, ce qui est aussi ce qui arrive jamais en Coupe Davis. Donc c'est complètement différent, je pense qu'il faut pas les comparer, et les deux sont hyper intéressants.
La Lever Cup veut devenir aussi incontournable que la Ryder Cup. Elle en copie le format, mais part de très loin évidemment. Néanmoins, ce rapprochement de stars donne lieu à des moments de pur bonheur. Team Europe a ainsi fait l'éducation de Carlos Alcaraz. Écoutez Casper Ruud révéler cette anecdote.
Björn Borg nous racontait qu'il avait pris le Concorde pour aller à New York et Carlos ne savait même pas ce qu'était le Concorde. Donc on a dû lui montrer sur Google car il est trop jeune.
Adversaire toute l'année, complice pendant une semaine, c'est le charme d'une compétition qui a de la gueule. Mais l'arrivée prochaine de Yannick Noah et d'André Agassi au poste de capitaine prouve que la Lever Cup a peut-être besoin d'un souffle nouveau.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions.
Les mousquetaires en bateau jouaient aux États-Unis, ils savaient pas ce que c'était un bateau. Fantastique culture, transmission entre un grand capitaine et un joueur d'aujourd'hui.
Une compétition en or ou une compétition en bois, le 32-16 hashtag RMC Lab, l'application RMC direct au studio.
Là, tu dis ça, mais quand t'es capitaine de Billie Jean King Cup, c'est Diane Paris qui t'explique comment ce que c'est TikTok et Tinder. Ouais. Bennett aussi, il y a la
pas Tinder, mais TikTok, oui.
Tu commences, Stephen, parce que
pour toi,
c'est une compétition.
Il y a 5 personnes contre moi,
casse-pipe. Bah, c'est pour ça, essaye de les convaincre et après, tu vas te faire rentrer dedans.
Voilà. Si mon avis vous en foutez, je m'en vais.
Attendez, juste les GG. Vos petites susceptibilités, là, depuis le début de l'émission, merci les copains, mais vous avez un avis, donc je suis obligé de bien commencer par quelqu'un. Ou alors, on commence tous les 5 en même temps. Comme ça, au moins,
allez, trois.
Vas-y, Stephen.
Bon, alors, ce qui est compliqué dans ta question, JC, je vois que t'as pas vraiment progressé sur l'énoncé des débats, c'est que c'est compliqué d'avoir une nuance or ou bois. Pour moi, c'est entre les deux. Mais s'il faut choisir, je choisis que c'est une compétition en or parce que, tous les meilleurs joueurs du monde sont quasiment là. On va me dire oui, l'âge d'or de la Lever Cup, c'était quand il y avait Federer, Nadal et Novak Djokovic. Malheureusement, ils sont pas là. Et le tennis globalement est un peu plus fade aujourd'hui. Donc ça se retrouve dans la Lever Cup. Maintenant, j'entends souvent cette Lever Cup, les mecs font semblant d'avoir des émotions. Donc je savais pas qu'ils avaient fait le cours Florent. Je savais pas que Nick Kyrgios, ses larmes en 2017 quand il perd en ayant balle de match contre Roger Federer. Je savais pas qu'il a inventé des larmes quand Francis Tiafoe donne pour la première fois la victoire en 2022 à l'équipe monde contre l'équipe Europe. Je ne crois pas que cette joie elle était fake. Donc ces mecs là sont investis. Bennett, Sarah, vous avez déjà vu des exhibitions, vous avez vu le niveau de jeu sur une exhibition la semaine dernière à Sofia, Dimitrov, Djokovic, c'était une parodie de tennis, les mecs jouent en marchant, les matchs on les a vus à la Lever Cup, les mecs il y a quand même un investissement qui est quand même supérieur, les mecs sont à fond, jouent au tennis à fond, le décorum est magnifique et puis cette Lever Cup, elle restera dans l'histoire du tennis. Pourquoi ? Pour cette iconique image de retraite de Roger Federer, le double avec Nadal où il perd après balle de match, et cette image où tout le monde en larmes, Nadal et Roger Federer. Après, elle a été mise sur le circuit de l'ATP. Il n'y a pas de point ATP, on me dit il n'y a pas de point ATP, c'est une exhibition. Mais les Jeux Olympiques, ce n'est pas une exhibition, il n'y a pas de point ATP non plus.
Et c'est vrai que les tennisman adorent faire les Jeux Olympiques.
T'as pas vu Djokovic jouer aux Jeux Olympiques?
Si, je l'ai vu.
Mais j'ai pas vraiment vu les Françaises. On est les Français. Mais les Jeux Olympiques, il devrait y avoir des points ATP.
Maintenant, cette compétition, vous me parlez de la Ryder Cup. La Ryder Cup, elle a été créée en 1927. Moi, j'aurais voulu voir s'il y avait des grandes gueules du sport en 1927-28 pour parler de cette compétition. Peut-être qu'il y avait des critiques aussi sur cette Ryder Cup au départ. Laissons un peu le temps à ça. Et quand je vois l'affluence, ça fait 7 ans.
C'est ça, on pourrait en blinder.
Ça fait 7 ans, c'est sold out tous les jours. Cette compétition, partout où ils jouent. Chicago, à Berlin, dans le monde entier, c'est sold out. Pour moi, c'est une vraie compétition. Les mecs jouent au tennis à fond et c'est pas du pipeau. Il y a de l'argent et de l'argent, mais tu sais que les tennismans sont les mecs les plus cupides du monde. Donc, t'es obligé de les
aider. Ok, Julien Benetto, tu peux répondre à ça.
Il y a plusieurs choses. Je suis d'accord avec Stéphane sur l'intitulé de ta question. Il faut être précis. Et on compare à la Ryder Cup. Aujourd'hui, je te le dis, s'il n'y a pas l'argent, Tiafoe, Kyrgios et compagnie, c'est faux. Il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune valeur sportive.
Oui, mais c'est le cas pour tous les tournois, je veux Bennett.
Non.
Quand tu vas jouer sur le tournoi, il y a des prize money. Quand tu vas faire les exhibitions, il y a des prize money.
Il y a une valeur sportive. Quand tu gagnes l'US Open, même quand tu gagnes un 250 ou un 500, il y a un vrai truc. Il y a une valeur sportive. La Lever Cup n'a aucune valeur sportive. Pour une et bonne simple raison. C'est que la sélection, elle se fait au bon vouloir de Roger Federer et Tony Gottschalk. Et par rapport à la Ryder Cup, c'est le truc le plus contradictoire qu'il y a avec la Ryder Cup. La Ryder Cup, ils sont 12 par équipe. Il y en a 6 qui sont qualifiés via leur classement et via leurs résultats. Il y en a 6 où c'est les choix du capitaine, mais des choix sportifs, pas des choix en fonction de par qui tu es représenté sur le circuit ATP, par quelle agence de manager t'es représenté. Et du coup, ça, il y a une vraie. Oui, et c'est tous les deux ans.
En fait, les meilleurs joueurs sont quand même là, Bennett.
Mais jamais. Mais tu crois que dans la sélection monde, Tabilo, c'est le meilleur?
Mais Tabilo, ma top Tabilo.
Mais tu prends une.
Mais arrêtez, la sélection, il n'y a aucun critère sportif sur la sélection.
Bennett, t'as les trois meilleurs américains.
Tiafoe et Fritz, ils vont pas jouer la Coupe Davis en Chine parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils jouent la Lever Cup parce qu'ils prennent un chèque énorme. Donc c'est pas le rayonnement.
Attends, tu vas pas tomber sur les deux américains alors qu'il y a pléthore de stars qui jouent plus la Coupe Davis, Bennett.
Mais c'est un exemple. Ils sont tombés comme ça.
En tout cas, il y a un vrai point commun entre la Ryder Cup et la Lever Cup, c'est qu'il n'y a pas de Français.
Bah, Ryder Cup, il peut y en avoir. L'année prochaine, tu vas voir. Il peut y en avoir. Mais l'année dernière, il y avait Arthur Fils dans la Ryder Cup. Mais je veux dire, c'est.
T'es d'accord avec moi que les mecs, ils jouent au tennis.
Ils jouent à fond.
Oui.
C'est un décorum, c'est exceptionnel. Marketing, etc. Après, sportivement, il y a un jour où tu joues un simple, un double, ça vaut un point. Le deuxième jour, ça vaut deux points. Le troisième jour, tu vaut trois points. T'en sais rien. La règle, je la connais pas.
Mais tu viens de le dire.
Mais oui, mais je sais même pas. Quand ça commence, quand ça finit, je sais pas combien il y a de points total en jeu. La Ryder Cup, c'est simple, faut arriver à 14 et il y a 14
points. Mais Bennett, c'est comme le dit Steve, en fait, la Ryder Cup, elle est là depuis tellement longtemps que effectivement, ça s'est institutionnalisé, on la comprend. Aujourd'hui, pourquoi moi je dis qu'elle peut faire du bien et qu'elle a une forme de dorure, c'est que le tennis aujourd'hui souffre de matchs qui peuvent paraître inintéressants pour des gens qui ne suivent pas le circuit toute l'année.
Il y a plein de joueurs que tu connais pas. Et aujourd'hui, quand tu t'achètes un billet pour aller voir la Lever Cup, tu vas peut-être payer 300, 400, 500 balles. Et le truc, c'est que tu connais l'affiche. Mais tu connais l'affiche et que tu vas t'asseoir et tu vas voir des stars et t'es sûr d'en voir. Mais ce qui n'est pas le cas. Regarde la Coupe Davis et tu sais quoi?
Je suis d'accord.
La nature a horreur du vide. Pourquoi elle a trouvé sa place à la Lever Cup? Pourquoi elle a trouvé sa place? Parce qu'on a découpé absolument la Coupe Davis, on a voulu ne pas donner de l'argent.
Oui, elle a été bien marketée aussi.
Elle a été bien marketée parce qu'on y a mis de l'argent et elle a été marketée parce qu'elle fait en fonction de l'intérêt des joueurs aujourd'hui. Les joueurs, ils s'en foutent d'aller jouer pour leur pays. Donc elle a trouvé sa place et à Berlin, aujourd'hui, t'as des gens qui payent et qui savent qu'ils vont voir Alcaraz.
S'ils sont contents d'avoir la Lever Cup en phase 2,
j'en sais rien.
C'est normal que la Lever Cup elle soit au milieu du calendrier ATP avec 3 tournois.
Mais ça, c'est autre chose.
Mais comment la Lever Cup elle a été capable de s'introduire comme ça? Parce que c'est Roger.
Mais t'as raison.
Marqué de la même façon, le même truc.
Bennett, si c'est quelqu'un d'autre que Roger Federer, toutes les histoires derrière.
Il arrive après les 4 tournois du Grand Chelem. Il est bien placé, Bennett. Les 4 tournois du Grand Chelem ont été joués.
Vous parlez de la Ryder Cup, elle est sanctuarisée. Il n'y a pas d'autres tournois dans le monde pendant la Ryder Cup.
Mais c'est pas comparable. On ne compare pas la Lever Cup et la Ryder Cup. Aujourd'hui, on ne peut pas les comparer.
Oui, il n'est pas. Peut-être que dans 20 ans,
la Lever Cup prendra autant de place que la Ryder Cup. Ça, on n'en sait rien. C'était pour les combats du
Alors, moi, j'ai un argument qui n'est pas du tout le même que vous. Et pour moi, c'est une compétition ou une exhibition, comme vous voulez, mais en bois, pour la seule et unique raison que c'est une compétition faite par des mecs, entre mecs, pour des mecs. Et ça, elle n'a pas son pendant de femme. Il n'y a pas la Lever Cup des meufs. Hein. On parle de quoi? On parle d'un truc. On est en 2024. Elle n'est pas en or, réussie tant qu'elle n'a pas son pendant pour les filles.
Si le font chez les filles, ça a d'autant plus d'intérêt qu'aujourd'hui, on a besoin d'incarner le tennis féminin au plus haut niveau. Et si on arrive à faire venir avec des gros chèques les toutes meilleures et de les faire affronter sur 48 heures ou 72 heures,
ça pourra donner un classement.
On a des points, de l'argent, etc. S'ils veulent avoir une crédibilité sportive, la sélection doit se faire sur des critères sportifs.
Mais t'as raison, mais peut-être que ça va arriver. Pour l'instant, on est dans un lancement. On a besoin de têtes d'affiches, on a besoin de posters, on a besoin de vendre des billets.
C'est qui l'a fait. On n'est plus dans un lancement. Si tu montes un tournoi, au bout de 7 ans, c'est plus un lancement.
En tout cas, on vient d'avoir Christine Mladenovic au téléphone qui voudrait plutôt faire la Lever Cup que la Coupe Davis et que les Jeux Olympiques. Mais ça, on en reparlera plus tard.
Par contre, elle voudrait choisir son partenaire de double.
Et pas que ce soit l'homme qui décide.
C'était une bonne pour Julien.
Ça va pas faire rire, je te dis tout de suite.
Oui, je sais, dans la sortie. Christophe, alors.
Pour moi, cette coupe, c'est un peu le symbole de ce que les marchands du temps veulent faire du sport mondial et qui sont en train de transformer. C'est un truc bien bling bling avec beaucoup d'argent, des stars, des codes couleurs incroyables, une salle plongée dans l'obscurité, des caméras partout. Mais je trouve que la coquille, elle est un peu vide. Alors je sais qu'il faut accepter de vivre avec son temps et de cesser de dire que c'était mieux avant. Mais moi, j'y arrive pas. Elle me procure pas d'émotion cette compétition. Mis à part, évidemment, et c'est chouette de voir toutes les plus grandes stars réunies. Et en plus, stars qui s'aiment, quoi. On se fait des bisous, on s'adore. On joue ensemble, Roger avec Rafa, mais oui, c'est des belles images, c'est sympa. Mais je suis désolé, pour moi, le tennis par équipe, je vais encore y revenir, mais c'était la Coupe Davis avec un pays qui affronte un autre. Oui. Là, c'est quoi? C'est le monde contre l'Europe? Mais enfin, j'ai pas l'impression. Quel est l'intérêt de voir une compétition entre le monde et l'Europe? Je préfère un truc entre la France et les États-Unis. Je suis complètement.
Mais en fait, tu donnes exactement les arguments d'un spectateur du Vanuatu qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans la Coupe Davis. On en parlait la semaine dernière. On sait même pas où c'est diffusé. On comprend rien au règlement.
Ah oui, alors qu'un spectateur des Vanuatu, il va dire tu es américain, donc il est l'équipe du monde, donc je suis derrière lui, c'est ça quoi.
C'est franchement la Lever Cup,
tu sais où c'est diffusé?
Oui. Bah oui, parce que j'ai allumé ma télé.
En France, jusqu'à l'année dernière, il y a deux ans, c'était Bein qui avait la télé.
Ouais.
Eurosport, tu sais pas. Mais tu sais pas, c'était pas foot tennis, tu sais pas, faut arrêter de.
Mais si, parce que non, ce sont des chaînes qui.
Arrête.
C'est des chaînes qui retransmettent du tennis.
Ça n'aura jamais la saveur d'un match de Coupe Davis qui se terminait dimanche soir dans le cinquième match à 2h du matin.
Ça n'existe plus. La nature en du vide. Donc, forcément, il
s'agit de s'installer et d'avoir un truc sportif très fort et qui procure des émotions. Ça doit être sanctuarisé. Il ne doit pas y avoir de tournoi à côté.
Ça doit être une fois tous les deux ans.
Et le mode de sélection doit être sur les
sportifs. OK, ça, on a bien compris.
Avec les pics pour le capitaine.
Et pardon, et c'est vrai que c'est pas notre culture, en tout cas en France, mais de voir l'Europe contre les États-Unis ou l'Europe contre le reste du monde, mais pour mettre depuis quelques années intéressé au golf.
Un tennisman allemand, toi ?
Non, mais au golf, il y a une vraie. Mais au golf, il y a maintenant cette vraie identité d'appartenance à l'Europe et d'appartenance aux États-Unis.
Ouais, ça, mais peut-être que tu l'as vu dans la Ryder Golf. Tu es allé la faire
deux cultures golf différentes aussi. Le golf aux US, c'est pas du tout la même chose que le golf.
Là, c'est. Voilà, on rêve de tous taper les Américains. Taper le monde, bon, je sais pas, moi, je sais pas. Ça me branche pas. Mais bon.
Est-ce qu'il y a vraiment ces deux cultures dans le tennis avec un tennis différent aux US et du tennis européen?
Non, ça t'a raison.
Mais c'est même pas aux US.
Il y a un autre truc, c'est que pourquoi ils font ça, ce format-là? C'est parce que à un moment donné,
les Américains n'avaient pas de joueurs.
Les Américains n'avaient pas de joueurs. Ensuite, les Européens étaient très dominants.
Oui.
À un moment donné, il y avait les Argentins, les Chiliens qui étaient très forts. Donc en fonction de comment ça se passe,
ils ont découpé.
Ouais. Bah, oui, parce que du coup, ils se disent, on va faire le monde, parce que.
Et la Ryder Cup, elle opposait qui au début? Les Anglais contre les Américains, parce que les Anglais pensaient qu'ils étaient les seuls à bien jouer au golf. Et donc petit à petit, le niveau a augmenté. Et donc l'Angleterre.
La même chose dans la Coupe de l'Amérique.
Mais oui, exactement. Donc laissons le temps à quelque chose. Une chose est sûre, c'est que si elle arrive aujourd'hui et qu'elle a le petit succès qu'elle a aujourd'hui, encore une fois, c'est parce qu'il y a un vide énormissime de cette Coupe Davis qu'on ne retrouvera plus jamais, et peut-être que petit à petit elle va évoluer, elle va en prendre des codes, et que ces codes-là vont attirer de plus en plus de monde.
Parce que pour l'instant, en 7 ans, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et c'est plus un lancement en 7 ans.
Mais après,
elle est très très bien marketée. Mais c'est pour ça
qu'elle
est là.
Oui, mais c'est magnifique. Mais
dans les grandes gueules
du sport, c'est combien de débats tu fais dans l'année sur le tennis devient-il ennuyeux, le tennis doit-il se réinventer. Et ben, je trouve que ça fait partie des trucs. C'est comme l'UTS de Patrick Mouratoglou, là, qui est une vraie exhibition. Les mecs, ils lancent des carapaces et des bananes sur le terrain. Ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça fait un peu de.
Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à qui?
À personne. Mais c'était ironique, Bennett. Mais à un moment donné, peut-être que on parle de nouvelle génération. Peut-être que la nouvelle génération, ils ont envie sur 3 jours de voir les meilleurs joueurs du top 20 ATP plutôt que de regarder un match de Coupe Davis contre Djokovic, contre le 325e grec la semaine dernière. Peut-être que ça les intéresse. Peut-être que c'est ça aussi qui passionne le tennis.
Ok, et t'as une appartenance à l'Europe juste?
Comment ou ça
pas aujourd'hui? Est-ce que quand tu vois l'Europe face au reste du monde, il y a une équipe où t'es attaché?
Bah, en fait, avant j'étais très Europe, parce que Roger, parce que Rafa et compagnie. Et en fait, là, j'aime bien Ben Shelton, j'aime bien Francis Tiafoe, cette petite génération.
T'as retourné ta veste.
T'es à fond pour l'Europe, quoi qu'il arrive. Moi, les golfeurs.
C'est impossible d'être pour les États-Unis.
Les golfeurs européens, leur plus grand joueur, c'est qui? C'est Jordan.
C'est Tiger Woods.
Mais en Ryder Cup, ils veulent que Tiger ait point barre.
Bah, c'est beau ce que tu dis, Bennett, là.
Je l'ai vécu, Stephen. Moi, j'étais auprès de lui. C'était quand, la Ryder Cup?
En 2018.
Voilà, j'y étais. Mais j'avais qu'une envie, c'est qu'il se plante.
Bah, bien sûr. Bah ouais, moi aussi, c'est le départ. J'ai jamais vu une compagnie de golf, j'avais envie de faire un cross-match
par affinité des joueurs aussi. S'il n'y a plus aucun joueur en Europe,
t'as rien
qui fait
le concept alors. C'était bien au début, mais là, tu t'es
égaré. Allez, je reprends la main. Vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, vous avez pu débattre longuement sur la Lever Cup, compétition en or ou en bois. Ça se termine aujourd'hui. À partir de 13h, Stephen Brunch.
Ah bon?
C'est votre nouveau rendez-vous, la 4e émission
en or alors.
Émission en or, évidemment.
Surtout qu'on reçoit fois, dès 13h15, Federer qui vient répondre à Benetton sur ses attaques il y a 7 ans, où il accusait Federer de contrôler tous les tournois et de choisir les cours où il jouait. Donc la réponse de Roger, elle est tout à l'heure à 6h15.
Bon, ensuite, il y a qui sinon?
Ensuite, il y a Jordan à 14h, c'était à Monaco, qui viendra nous dire si Brel Mbolo est vraiment une Brel, l'attaquant. Bon. Plus sérieusement, Jean-Christophe, on reviendra sur l'Olympico avec Bafé Gomis qui a joué à Marseille, qui a joué à Lyon, qui viendra nous parler de cette rivalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le lancement de la Betclic Elite. On va avoir un scout NBA français des portants de Trailblazers qui va nous dire pourquoi la Betclic Elite est le championnat qui fait fantasmer les Américains. Et on terminera avec Adrien Thomasson, le joueur du Racing Club de Lens, qui viendra nous raconter son match nul hier contre Rennes et nous raconter son quotidien joueur de foot, l'arrivée de Will Steele. Voilà, tout ça avec les auditeurs qui viendront poser des questions sportives.
Des magnifiques médaille d'or autour du cou quand même.
C'est un hommage à Bennett.
C'est quoi ?
Médaille olympique, Bennett.
Eh oui, médaille de bronze.
Médaille de bronze.
C'était en 2012 ?
Absolument.
À Londres ?
Eh oui.
Bravo. Bravo. Tout peut
c'était
arriver.
Ouais. Bravo. Comme quoi, les miracles. Tout peut arriver dans le sport.
Bon, vous vous expliquerez en rentrant tous les deux, évidemment. Merci Eric Salio d'avoir été avec nous. Merci Stephen Brun. Tout à l'heure, Stephen Brun, à partir de 13h. Et dans quelques instants, le fameux débat caché. Eh oui, vous ne savez rien, va falloir débattre. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Julien Beneteau, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marie Martineau. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord et il s'en est dit des choses dans le studio RMC ce matin. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. Vous composez le 32-16. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Mais les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre, réagir sur l'instant, sur l'émotion, à certaines paroles diffusées. D'ailleurs cette semaine c'était sur RMC. Mais tout d'abord, pour tenter de découvrir le débat caché, un petit indice. C'est ça.
La seule chose. Aujourd'hui on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7.
La sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée. Et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble.
En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas.
Vous venez de réécouter les principales prises de position des joueurs de l'équipe de France pendant l'Euro, avec notamment Marcus Thuram ou encore Kylian Mbappé lors des élections législatives, des sorties médiatiques qui ont choqué un homme. Et non des moindres, Michel Platini en personne, invité exceptionnel de Rotten sans flamme jeudi.
La seule chose qui m'a choqué, c'est que les joueurs de l'équipe de France, avec le maillot de l'équipe de France, ont pris des positions politiques la dernière fois. Ça m'a choqué. Parce que l'équipe de France, c'est l'équipe de France de tous les Français. C'est pas l'équipe de France que d'une partie des autres. C'est l'équipe de tous les Français. Ils peuvent prendre position, mais ils le font chez eux, individuellement, mais pas avec le maillot de l'équipe de France en conférence de presse de l'équipe de France. Et ça, j'en veux beaucoup à la fédération d'avoir laissé ça.
J'en veux beaucoup à la fédération.
Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Michel Platini? C'est très simple. D'accord ou pas d'accord? Christophe Cessieux.
Je suis plutôt d'accord avec la nuance, effectivement, sous le maillot de l'équipe de France.
Ok, plutôt d'accord. Marie Martineau.
Non, je suis pas d'accord.
Pas d'accord. Julien Beneteau.
Plutôt d'accord.
Plutôt d'accord. Sarah Pitkowski.
Oui, il m'a même fait changer d'avis. Plutôt vraiment d'accord.
Ok.
Ok, cool.
Pas mal de choses à dire là-dessus. Bah, Marie, comment? Pourquoi pas d'accord?
Oh là là, j'ai pas prévu de finir l'émission comme ça, là, aujourd'hui.
C'est le principe du débat caché. Hein.
Tout à fait. Oui, mais non, mais ok, voilà, on y va.
Vas-y.
On y va. Non, mais c'est un sujet particulier parce qu'on va être taxé de. Enfin. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, ces joueurs-là, qui quand même, pour la plupart, parce qu'on parle de Lilian Thuram, du fils de Lilian Thuram, qui est noir et qui a vécu certainement des pas mal de situations de racisme. On parle de Mbappé qui vient d'un quartier où il y a ce sentiment d'être toujours exclu et tout et stigmatisé. Que ces gens-là, qui font partie de l'équipe de France, prennent la parole pour dire non. Je pense que c'est une dérive de vouloir faire confiance confiance à des gens qui vous promettent que l'exclusion et de mettre la faute sur des gens comme nous, c'est bien. Je pense qu'ils sont légitimes à le faire.
Et ouais, donc,
je vois pas à quel moment on pourrait leur dire tu es en équipe de France, donc tu ne dois pas le dire. Tu es en équipe de France parce que justement tu fais partie de cette magnifique équipe de France de la diversité, et tu viens de certains quartiers qui sont des quartiers français, et donc à ce titre-là tu es français et tu as le droit de prendre la parole sur des sujets qui te touchent de près et que tu connais bien.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Michel Platini. Si chacun prend évidemment la parole, mais on vous a passé l'extrait en question. C'est-à-dire que lui, ils ont le droit de s'exprimer, mais avec le maillot de l'équipe de France, il faut parler à tous les Français.
Est-ce que tu considérerais que
la présidente de la République,
au moment des Jeux Olympiques, par exemple, des athlètes olympiques viennent dire il ne faut pas voter, chez moi, au-dessus de mon bureau,
j'ai une affiche qui fait 2 mètres par 1 de 2 mecs avec un gant noir sur un podium olympique qui lève main, qui ont été disqualifiés, qu'on a traîné dans la boue après, alors que je pense qu'ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a des fois où voilà, ça s'impose à toi et qu'ils se sont sentis légitimes de le faire. Évidemment que je respecte la règle 40 et qu'elle est importante parce qu'elle permet de faire des jeux un field of play, un endroit de sport qui est décorrélé normalement de toute injonction politique. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, les choses arrivent, l'instant fait que c'était à ce moment-là que je pense que ces garçons-là en équipe de France se sont sentis touchés dans leur chair et qu'ils ont d'abord parlé en leur nom avant de parler en nom de l'équipe de France. Mais alors
la petite ambiguïté, tu as raison, ils parlent en leur nom, sauf que là où ils sont interrogés, c'est en conférence de presse sous le maillot de l'équipe de France. Et donc forcément ce qu'ils disent, c'est une forme de prise de parti, même s'ils le disent pas ouvertement. Et j'étais d'accord avec toi. Et quand Michel Platini, j'ai écouté ses propos, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ce qu'on leur demande. Que avant ou après, ils demandent qu'on leur demande qu'ils veuillent prendre la parole, pour dire ayez un acte citoyen, allez voter. J'entends, mais ne doit-on pas aujourd'hui, quand on voit les dérives et que tout le monde peut parler, dire n'importe quoi, et que cette puissance des réseaux sociaux fait ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que nous ne devons pas aujourd'hui sanctuariser les maillots des équipes de France? Et quand tu es en conférence de presse au moment d'une compétition, que ce genre de questions ne soit pas posé aux joueurs. Il le fait avant, il le fait après.
Oui, alors mais c'est je me peut-être aux journalistes aussi de ne pas poser la question à ce moment-là.
Au contraire, à être sanctuarisé quand tu portes le maillot de l'équipe de France pour éviter les amalgames, les appropriations. C'est là où ça m'a fait changer d'avis.
Marie, est-ce que si un joueur de l'équipe de France aujourd'hui arrivait et on lui pose la question en conférence de presse et il dit il faut aujourd'hui voter pour Marine Le Pen, il faut aujourd'hui voter pour ce parti-là, parce que c'est qu'est-ce que tu en aurais pensé? Est-ce que tu aurais aussi donné droit à...
Parce qu'un sportif donne son opinion politique.
Voilà, donne son opinion. Il peut donner son opinion. Ça peut aller de l'extrême droite à l'extrême gauche. Est-ce que tu ne serais pas monté au créneau à ce moment-là? Est-ce que tu n'as pas cette réaction en fonction justement de tes idées politiques?
De mes idées politiques? Non. Mais attendez, vous êtes sérieux là? On est vraiment en train de dire ça là? Je sais pas, j'y sais, au secours.
Bah non, mais c'est juste qu'il y a 10 millions de personnes qui ont voté Rassemblement National.
Mais là, je sors du débat, en fait. J'ai rien à vous dire.
Bah non, mais si on peut pas débattre ensemble.
Non, c'est pas qu'on peut pas débattre.
Ce que dit Michel Platini, c'est très simple.
On parle d'un parti. Vous voulez vraiment c'est compliqué là.
Mais pourquoi c'est compliqué? La question est très simple. Est-ce qu'à partir du moment où il y a 10 millions de personnes qui votent pour le Rassemblement National, est-ce que dit Michel Platini, c'est quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu portes le maillot de tous les Français?
Non, mais Hitler est arrivé au pouvoir par la voie légale des élections aussi, hein, à ce moment-là. Enfin, les gars, allons quoi, au secours. Franchement, genre, mais là, c'est. Ouf.
Moi, je pense que tu ne dois pas donner ton avis, du prosélytisme quand tu portes le maillot de l'équipe de France. Que tu le fasses dans la sphère privée, ça ne me choque aucunement.
À titre individuel, que tu le fasses
dans une conférence de presse, que tu exprimes tes sentiments dans un bouquin, sur tes réseaux sociaux, ça ne me choque aucunement. Et au contraire, je trouve que les sportifs manquent parfois d'engagement politique. Et je trouve qu'ils devraient avoir plus la voix au chapitre dans les sujets de société. Mais le faire sous le maillot de l'équipe de France, et uniquement dans un sens finalement, parce que c'est ça. Je trouve ça pas normal. Je trouve que portes les maillots de l'équipe de France, quand tu es aux Jeux Olympiques, eh bien l'espace d'un moment, tu ne parles pas de ce genre de truc. Surtout en période électorale. En période électorale, c'est ça. Parce que tu as une influence sur le reste de la population, sur la notamment
mais
la population
jeune. C'est le seul groupe
jeune.
Politique qui remet en question l'origine des gens et qui ouais, parle de ça. Et donc tu viens les toucher dans
en fait, l'idée, je pense, de la question, c'était pas de savoir s'il fallait prendre la parole contre ou pour ce parti.
Oui, c'est à ce moment-là.
Générique.
Exactement. De manière générique.
J'entends bien.
Si tu prends de la hauteur
aujourd'hui. Sous le truc de l'équipe de France.
Est-ce qu'ils doivent le faire?
Est-ce que le lendemain matin du match, Mbappé, il vient à la matinale de RMC ou de et là, il s'exprime. Il dit voilà, il faut aller voter. Moi, personnellement, je voterai contre parce que je veux pas ça. Voilà. Est-ce que, oui, là, il est plus légitime, est-ce que c'est pas mieux que quand il est capitaine de l'équipe de France et après un match ou avant un match de l'équipe de France, il donne ça. Après, je comprends qu'il puisse, parce que ça se trouve, il a beaucoup de coéquipiers qui lui disent, écoute, t'es notre capitaine, tu vas aller en conférence de presse, fais passer ces messages-là.
Alors, sache que, en plus, il voulait faire quelque chose en commun, l'équipe de France. Oui. Vous vous souvenez de cette histoire où on a appris, nos journalistes qui ont enquêté, ils voulaient faire quelque chose en commun. Et finalement, ils se sont pas mis d'accord, donc il n'y a jamais eu d'action commune. Donc, c'est dire aussi si ce sujet, parfois, peut être compliqué quand une équipe de France s'empare d'un sujet politique, mais que tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord au sein même de cette équipe de France.
Bien sûr. Non, mais c'est, il y a forcément des différentes opinions et c'est compliqué. C'est pareil, enfin.
Mais bon, après, au nom de la liberté d'expression, à partir du moment où tu tends un micro à quelqu'un, il peut dire ce qu'il a envie de dire. Donc, finalement, je continue à réfléchir parce qu'on tombe sur ce débat. On n'a pas du tout le temps d'y réfléchir.
Donc, est-ce que tu le fais
pendant les Jeux Olympiques, je me pose la question. Pourquoi il n'y a pas. Enfin.
Bah là tu es banni hein, si vraiment tu prends des positions politiques pendant les Jeux Olympiques.
Toi, Julien, t'es capitaine de l'équipe de France féminine durant les Jeux Olympiques et à un moment donné on pouvait penser qu'un gouvernement RN serait au pouvoir lors des Jeux Olympiques. Est-ce que justement vous en tant qu'athlète vous arrivez en conférence de presse et tout ça, est-ce que t'as réfléchi à la question en disant si on me pose la question qu'est-ce que je dis?
Non, j'avais pas réfléchi à la question, c'est quelque chose qui me faisait peur parce que je me dis on va accueillir les Jeux Olympiques et je m'imaginais pas. Je pouvais pas m'imaginer Jordan Bardella pas loin de Tony Estanguet quoi. C'était et j'étais vraiment dans l'imagination, mais pas dans la préparation. C'était et après c'est vrai qu'il y a cet article pendant les jeux où tu peux être banni mais s'il y a des choses graves qui se passent parce que les règles olympiques sont de moins en moins respectées, que il y a un journaliste qui pose une question à un joueur ou une joueuse et elle en fonction de comment elle se sent à ce moment-là ou comment
c'est le cas des Russes en conférence de presse où il se trouve à répondre à des questions effectivement sur l'invasion russe Qu'est-ce que tu fais de ce genre de situation? Il n'y a pas de
cadre légal comme la règle 40 dans l'Olympisme qui régisse la Fédération internationale de foot. Donc, à partir de ce moment-là, ils se sont servis du porte-voix et du cadre dans lequel ils évoluent. Donc, moi, à ce titre-là, on ne veut pas.
Et je rappelle que certains joueurs ont dit non, mais moi, je ne réponds pas à cette question, je veux juste parler de foot. Et puis d'autres se sont.
Oui, ils ont le droit de faire ça aussi.
11h46, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous êtes nombreux à nous appeler. Vous voulez régler les quelques comptes avec les GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h50, les grandes gueules du sport se sont transformées l'espace d'une pub en grande gueule. On parlait politique dans cette émission. C'était le débat caché il y a quelques instants avec les propos de Michel Platini sur l'engagement des footballeurs lors des élections législatives. Si vous n'avez pas réécouté tout ça, n'hésitez pas, c'est déjà disponible en podcast. À partir de midi, nous allons parler de football. Les paris RMC autour de Olympique Lyonnais face à Olympique de Marseille. Restez bien avec nous, évidemment. Évidemment, c'est très important. On va vous donner les meilleures cotes. Mais tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Alors, les copains, il y a beaucoup d'appels. Donc, on va essayer d'en prendre un maximum. Déjà, Franck nous appelle au 32-16. Salut, Franck.
Et coucou, les grandes gueules du sport. La forme ?
Écoute, très bien. On va très bien. Tu veux attaquer qui, Franck ?
Attaquer, le mot, je vais le mettre entre guillemets. Mais je voulais attaquer Sarah concernant le sujet sur mon sport et son sport de prédilection qui est le tennis.
Ah, c'était sur le débat sur la Lever Cup. On va réécouter ce que disait Sarah et puis ensuite, évidemment, je te donne la parole.
C'est que le tennis aujourd'hui souffre de matchs qui peuvent paraître inintéressants pour des gens qui ne suivent pas le circuit toute l'année. Il y a plein de joueurs que tu connais pas. Et aujourd'hui, quand tu t'achètes un billet pour aller voir la Lever Cup, tu vas peut-être payer 300, 400, 500 balles. Et le truc, c'est que tu connais l'affiche. Et, mais oui, mais tu connais l'affiche et que tu vas t'asseoir et tu vas voir des stars et t'es sûr d'en voir.
Et voilà, Sarah défendait la Lever Cup. Franck, tu n'es pas d'accord?
Non, je suis pas d'accord. Alors surtout que ce matin sur le plateau, il y a Sarah, il y a Julien, il y a deux défenseurs et deux immenses champions de notre sport. Là, pour moi, elle vend son âme, comme on l'a vendu il y a quelques mois en arrière à Monsieur Piquet concernant la Coupe Davis, qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien. Mais là, quand j'entends Sarah parler de certitude, de voir des affiches, de voir les meilleurs joueurs, sur le fait qu'on enlève complètement le sportif, l'émotion, tout ce qui fait la magie du sport, on est en train de le vendre aux grands argentiers. Il manquerait plus que cette compétition en carton, parce que ce matin, vous parliez de bois. Pour moi, la Lever Cup, aujourd'hui, c'est une compétition en carton. Elle mériterait plus que d'être sur DAZN et on a fait la boucle, quoi. C'est-à-dire que je peux pas comprendre qu'un ancien sportif ne défende pas son sport et les valeurs qu'il véhicule.
Ah, c'est intéressant, ça. Tu peux répondre, Sarah. Sur la défense de son sport.
Mais je le défends, mon sport. Je le défends d'autant plus que je vois ce qui se passe sur un grand nombre de tournois allez, jusqu'au vendredi ou au samedi, t'as des tribunes qui sont quasiment vides à longueur de tournoi. Et je parle même des tournois du Grand Chelem où quand tu, sur des cours centraux, sur 15 000 personnes, t'as même pas un tiers ou la moitié qui est rempli parce qu'on connaît pas les joueurs. Et aujourd'hui, on a besoin d'une vitrine, on a besoin de paillettes à un moment ou un autre. Je te dis pas que le tennis ne doit vivre que de la Lever Cup, mais il peut compléter et permettre à des gens de s'identifier, de se dire, tu sais, un billet pour aller voir une finale d'un grand chelem, on n'est pas loin de ces prix à 300 euros. Mais en fonction de l'affiche, t'as des gens qui vont pas se déplacer, qui vont pas la prendre, la place, parce qu'ils connaissent pas un des deux joueurs, parce qu'il y a une surprise, d'autant plus dans le tennis féminin. Donc en fait, ma vision, c'était de dire que ce type de
le micro, Julien.
Tu te déplaces pour Tabilo Medvedev, même si tu connais l'affiche à l'avance.
Non, ouais, tu prends juste celui qui t'es vraiment. Je suis contente d'avoir vu Medvedev Tiafoe. Ouais, je suis contente de voir Fritz.
Ça, tu le vois en grand chelem.
Mais pas nécessairement. Vous avez vu ça où?
Bon, on va vous commencer pas le débat. On sait que vous n'êtes pas d'accord et c'était pour écouter Franck.
Ça permet un instant T d'attirer des gens qui vont voir une affiche en particulier. Et donc ça, c'est important. Je dis pas que le tennis ne doit fonctionner qu'avec ça, mais ça peut rapporter de la visibilité au tennis et donc ça peut servir.
Ok, merci Franck d'avoir composé le 32-16 et d'être venu dans les grandes gueules du sport expliquer avec Sarah. Kevin nous appelle également. Salut Kevin.
Salut JC, salut la grande gueule.
Alors tu veux t'attaquer à qui ce matin?
Je viens plus. Et à moi ça sera Christophe Cessieux pour moi.
Christophe Cessieux, sur quel sujet?
Alors ben voilà, je me suis permis d'écrire mon texte. Ça
alors,
fait
vas-y.
12 heures qu'on a un gouvernement de droite que déjà Christophe Cessieux se lâche sur la lutte contre l'assistanat. Toi Christophe, qui lâche un post sur Instagram quand tu as fini de monter la calaxe de chez Ikea, tu nous expliques que Pip Air, qui a réparé seul son safran en plein milieu des mers du Sud, n'a aucun mérite parce qu'elle a reçu un tuto YouTube de son équipe. Rassure-toi Christophe, tu n'es pas le seul. Ils sont nombreux ces Wallix qui partent qu'ils ont battu leur beau-frère sur Virtual Regatta. T'expliques qu'avec ChatGPT, faire le Vendée Globe, c'est pas plus dur que tourner en catamaran autour de trois bouées en face des plages de Nice. Pour finir, je te dirais juste Christophe, que l'assistance technique a toujours existé. En 1989, l'équipe technique de Tifran Lamazou avait fait un album photo de toutes les pièces du bateau pour pouvoir ensuite lui envoyer des consignes par fax. Alors Christophe, je te pose la question, est-ce qu'on doit lui retirer sa victoire?
Voilà Kevin qui avait préparé son exposé.
Il est en forme.
C'était à 10h30, on parlait du Vendée Globe, de ces soupçons de tricherie en 2020 lors de la précédente édition. Et puis maintenant, les marins ont dû signer une charte sur l'honneur pour dire attention, avec la non-assistance, on ne se fera pas aider et donc on ne trichera pas. C'était notre débat. Et toi, tu disais que c'est un peu devenu obsolète et un non-sens. Qu'est-ce que tu
veux dire? Oui, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Écoute, je considère pas tous les marins comme des tricheurs. J'adore la voile et j'adore ce qu'ils font, notamment dans le Vendée Globe. C'est une aventure et ça reste évidemment une aventure très risquée, et de partir comme ça, se confronter aux océans les plus durs de la planète. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là, mais je trouve aujourd'hui que les méthodes de communication font que on devrait supprimer cette règle de non-routage, quoi. Je veux dire, on sait très bien qu'on peut avoir le routage et qu'on peut très bien tricher. Donc arrêtons d'être candide, arrêtons d'être naïf et autorisons-les à avoir du routage météo par la terre, quoi. C'est tout. Mais je me suis pas du tout attaqué aux marins en disant qu'ils étaient les plus grands tricheurs de la terre. Il y en a d'autres parmi nous ici.
Merci de Kevin la d'avoir été avec nous et bravo d'avoir préparé.
Il a pas triché,
papier.
Il a bien écrit son texte.
Il a préparé son bravo. Papier. Merci les GG, merci Christophe, merci yes. Marie, merci Sarah, merci
bye
Julien,
bye.
Merci à vous les auditeurs
bon
de nous écouter.
Ciao.
Toujours plus nombreux, c'est déjà disponible en podcast. Hein. Et allez-y, régalez-vous, parce que c'est un peu chauffé ce matin dans le studio RMC. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. L'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille. On vous donne toutes les cotes. Allez, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.